Donc, et désolé pour vous, Michel Achevas. Donc, je reprends. Vous êtes un grand auteur et poète tchèque qui avait connu deux publications par chez nous. Il y a quelques années, L'autre île, dont nous parlerons. Et actuellement, L'autre ville, cette fois-ci, aux éditions Mirobol. D'ailleurs, je précise que immédiatement après cette entrevue, vous dédicacerez dans l'espace librairie. Alors, vous êtes à la fois poète, éditeur, vous êtes théoricien aussi. Dans cet ouvrage qui est absolument remarquable, qui est une sorte de conte urbain contemporain, l'histoire commence par un jeune homme qui est moins le héros que le narrateur, qui trouve un ouvrage à la couverture bleue à Prague, dans une bibliothèque, ouvrage qui va lui ouvrir des portes vers un ailleurs, vers un imaginaire fou. Et la question que je voulais vous poser, c'est, dans votre fiche biographique figure quantité de métiers que vous avez organisés, que vous avez tenus pour vivre, qui sont des métiers urbains, des métiers de la ville. Est-ce que pour vous, la ville elle-même est un espace poétique?
I think I'm a city writer, so I don't like nature so much, and for me poetry is mostly in the city.
Donc il pense qu'il est un écrivain de la ville et au final il n'aime pas tant la nature et il trouve toute sa poésie dans la ville.
And I think I like Prague, but I think I like all cities because each city has its own mystery.
Donc il adore Prague, d'où il vient, mais au final il aime toutes les villes parce que chaque ville a ses propres caractéristiques.
And I like to travel and to discover a soul of unknown city. For me, it's a great experience to come in some city at the first time.
Donc il voyage beaucoup et il pense que chaque ville a sa propre âme et du coup il prend beaucoup de plaisir à découvrir chaque ville à chaque fois qu'il arrive. C'est une nouvelle expérience à chaque fois.
The book which was published now in France was my third book, and it's the third book about Prague. It means that my first three books were about Prague. So at that time I got a sort of label that I am a Prague writer. And then I I thought that I was a little bit annoyed by that because you know that speaking about magical Prague, it's a sort of tourist tourist discourse now. As I said, I don't think that Prague is a privileged city, I even don't think that there are magic cities on cities which are not magic, because every city has its own soul, its own magic. And then this label of Prague writer, as I said, annoyed me. The result of this was that after that book, I finished with writing books about Prague, and I wrote several novels about after that. But it's not about Prague; it's about many other cities. For instance, my last book takes place in Paris, and the book which I had written before that takes place in 10 or 12 cities in Europe.
Donc c'est les trois premiers bouquins, c'était passé à Prague, et du coup on lui a mis l'étiquette d'écrivain de Prague, à propos de Prague et tout ça, et c'est pas une étiquette qu'il souhaite avoir, parce qu'il trouve que chaque cité a sa propre magie, sa propre âme. Donc il a souhaité, après ses trois premiers bouquins, écrire des histoires qui se passent dans d'autres villes. Donc son dernier bouquin se passe à Paris, celui d'avant se passe dans une autre ville d'Europe, j'ai pas compris laquelle. Et donc il veut vraiment pas qu'on lui colle l'étiquette d'écrivain de Prague. Il aime les cités, les villes de manière générale, elles ont toutes leur propre magie.
L'intention en fait de cette rencontre était aussi de nous mettre ensemble. Parce que j'ai écrit un livre là actuellement où Kafka part à Paris. Et où cette ville que nous connaissons est pour lui une source d'étonnement, etc. Et donc, le directeur artistique d'ici voulait qu'on discute justement de l'ailleurs, puisque c'est dans votre livre et dans le mien, que vous êtes de Prague, que je n'en suis pas. Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, l'ailleurs, c'est là où on se rend, l'ailleurs où, par exemple, vous avez un ouvrage que vous connaissez certainement qui s'appelle Épépée de Ferencvárosi, qui est un autre ailleurs. Est-ce que finalement, dès lors qu'on s'en va ailleurs, on n'est pas dans l'étrange et dans l'étranger? Désolé pour le jeu de mots, mais.
Yes, so I think that this encounter with something marvelous. It's not experience with every town, but I think that the fault is more in myself than in the city, because I'm distracted. I'm not able to feel something and to understand. So, for instance. Till now, I didn't find a way to perceive soul of London. I don't like London. I don't know why. Probably, I think London is as so nice and magic city as many others. But the encounter with London didn't occur, and I don't know why, but it happened, and it used to happen.
Donc, à chaque ville, il y a une rencontre différente, et ça dépend de la personne et de sa façon de faire. Il donne, pour exemple, que jusqu'à maintenant, à Londres, il pense que c'est probablement une ville très sympa et tout ça, mais lui il n'a pas réussi à faire ce lien avec Londres. Londres, ce n'est pas une ville où il a réussi à en ressentir l'âme et à faire une connexion comme il a pu le faire avec d'autres villes.
And I can also say that this encounter with the marvelous it hasn't to be an encounter with a strange and unknown city. It can be an encounter with some parts of your native city. Yeah, and it can be parts when no tourists goes. Yeah, because the Baedekers, the guides don't read about such places. So I said that I wrote after my Prague books that I wrote about other cities, but it's true that I wrote also one book about Prague, but not about the places of the historical Prague, but about periphery of Prague, which is technical place where no tourist go, yeah, and but it has so much magic as the historical center now, maybe more, yeah.
Donc la rencontre dans une ville avec le merveilleux et l'inconnu, ça n'a pas forcément à être dans une ville qui n'est pas la vôtre. Vous pouvez aussi retrouver des endroits dans votre propre ville que vous ne connaissez pas avant, qui n'est pas l'aspect historique, qui n'est pas là où les touristes vont, qui n'est pas dans les guides et que vous pouvez redécouvrir. Et même s'il a dit qu'il n'avait plus écrit à propos de Prague après ses trois premiers bouquins, il y en a quand même un où il a écrit à propos de Prague, mais pas sur le centre historique, pas sur les zones touristiques, mais sur la périphérie de Prague où les touristes ne vont pas et où il a découvert une autre magie, voire quelques encore plus magique que le centre touristique historique pourrait l'être.
Il y a un ouvrage avant de reprendre que je vous conseille, Épépée de Carenti, où un linguiste arrive dans un pays dont il ne comprend absolument aucun terme, aucun code. C'est un grand, grand livre proche de ce que peut écrire Michel Hagevaz. Alors, Juliette, petit à petit, nous, en France, nous avons Guy Debord et la psychogéographie. Donc, qui est de redécouvrir par la flânerie, par une sorte de promenade des lieux pseudo-connus, ce que vous évoquiez. Et donc il y a les lieux dans votre ouvrage, mais il y a aussi ce fameux livre, le livre bleu. Mais finalement, la question que je voulais poser, c'est... par exemple, Kafka, votre compatriote, n'aimait pas offrir des livres aux gens parce que ça bouleversait leur esprit. Un livre qu'on offre à quelqu'un, ça lui impose de changer ses idées, son imaginaire, etc. Et je me disais, finalement, est-ce que tout livre n'est pas votre livre bleu ? Ça se dira ? Your book is the perfect one. Every book is your blue book, no?
I must add to that the book was in unknown language because it's a question that if it was almost nothing what we learned would. Learn from the book, which is in unknown language. But on the other hand, we know something because it's a sort of question. Every book and everything gives us the questions, and we have to answer to those questions, and so even the book, which is in unknown language, gives us a question, and we are finding the answer in ourselves. And this searching for the answer can tell us at least something about us. So the some knowledge can come to us from something about which we think that we don't understand that. Yeah. So I read about books of which I knew only the titles. Yeah. And I have never. Learn nothing about the content of book, but the title, the two or three words, sometimes had so strong effect on me that I think that I learn something from that small of very little information.
Our philosopher Malebranche said that some titles are better than libraries. Some titles are better than libraries.
Ok. Donc, pour le livre bleu, donc le livre est dans une langue inconnue. Mais c'est pas... En fait, avec tous les livres, avec toute chose, vous pouvez... Ça vous pose des questions. Il y a des questions qui se posent avec n'importe quel... Même si c'est inconnu, et auxquelles vous allez chercher une question. Et, enfin, la réponse, pardon. Et en cherchant la réponse... sans parler de la trouver, à chaque fois vous faites un voyage en vous-même et vous cherchez, et rien qu'en faisant ça vous allez apprendre quelque chose ou à propos de vous ou à obtenir un savoir d'une sorte juste parce que vous cherchez la réponse à cette question qui est posée par cet inconnu. Et il dit que parfois, même sans lire le contenu d'un bouquin, juste le titre avec deux ou trois mots, c'est l'expression ou la façon où c'est présenté, c'est tellement fort, ça a du sens, ça fait écho des questions, et rien qu'en avec le titre, il va se poser des questions, chercher la réponse et du coup obtenir un nouveau savoir d'une sorte ou d'une autre.
I would add that sometimes books or words or even things had an influence on us. Even though we didn't notice that, yeah, and we learned it many years ago, many years after that. So, for instance, when I'm writing a book, suddenly I find in my sentences, it was mostly not in the content, but in the rhythm of sentence of something like that, some reading which was which I had many years ago, and you know, I like a passage from one book of Rilke, who was born in Prague also, and he wrote that he wrote about writing of poetry, but I think it concerns concerns writing of prose as well. So he wrote that the writing is not based on feelings but on experiences, and it's the first level to have many experiences. And the second level is to forget everything, yeah, to forget all these experiences, and to make possible a strange alchemy when these unique experiences change in sort of our, it's not conscience, it's more blood or something which is which goes from our body. So I want to say that we have many experiences, but the most important is not what we remember from these experiences, but what we forget and what change in some way in ourselves.
Donc, il se rappelle pas forcément de tout ce qu'il fait, mais quand à un moment donné il écrit une phrase et qu'il écrit à nouveau, il se rend compte dans ce qu'il écrit qu'il a des références de lectures qu'il a fait longtemps auparavant. Et en fait, ça lui fait penser à ce qu'a écrit un de ses compatriotes à propos de l'écriture de la poésie. Mais d'après lui, ça peut s'appliquer à tous les types d'écriture, que l'écriture n'est pas basée sur les sentiments, mais sur les expériences que vous avez vécues. Et donc, il faut vivre beaucoup d'expériences. Mais ce n'est pas non plus le fait d'avoir vécu toutes ces expériences, c'est le fait de les avoir oubliées et qu'avec le temps, ça... c'est en vous et que ça va ressortir plus tard sous une autre forme qui vous sera propre, même si l'expérience était unique à un moment donné, mais vous l'avez oublié et ça ressort dans son écriture sous une autre forme qui il se sera approprié toutes ces expériences qu'il aura vécues.
C'est ce que disait aussi Graham Greene dans son autobiographie, Une sorte de vie, c'est que ce qui fait un écrivain, c'est sa capacité d'oubli, justement. Alors, Michel Hagevez, vous êtes romancier, poète, vous êtes aussi théoricien, et vous utilisez donc et vous étudiez donc différents niveaux du langage. Et le philosophe Hobbes, dans le Léviathan, au début du Léviathan, dit que ce qui est le propre du langage humain, ce qui est le propre du langage humain, c'est son imprécision. Contrairement, par exemple, au langage des animaux qui n'est que trop précis, le langage humain permet l'humour, par exemple, qui est une déformation du langage. Le langage humain permet la poésie, ça c'est dans les capacités positives, mais que dans ses capacités négatives, le langage humain permet aussi le mensonge et la méchanceté. Et donc je voulais savoir, Michel Hagevez, si dans cet ouvrage, mais de manière générale dans votre travail, si vous essayez d'utiliser les capacités positives et négatives du langage humain.
So I think that the language of literature and of poetry or of prose has its own preciseness. Yeah, it's not somebody think that the language of prose is not so precise like language of the theory, for instance. But I would say that it's preciseness of other sort. Yeah, and when I'm writing, I feel that what I want to say, it's only one way in which I can it say, and I try to find this way. Yeah, and so and sometimes it I managed to do it, and sometimes I didn't. And sometimes I'm satisfied, and sometimes I don't. But as I said, it's the preciseness of own sort, and this preciseness is characteristic with the with that characteristic that it is not only in content, but also in form, in the form of sentence, for instance. And I think that the form of sentence says very much, and the content is not whole without the form. And when I say form, I don't think the that form of sentence, but more the rhythm of sentence, the life of sentence, of beginning and finishing, and so the preciseness of the language of literature consists in this cooperation between the idea and the form as powers of sentences.
Donc, d'après lui, pour l'écriture des poèmes et de la prose, il y a ses propres caractéristiques, c'est précis comme langage, même s'il y en a qui pourraient penser que le langage utilisé pour la théorie est plus précis. Mais d'après lui, quand il écrit, il utilise sa propre précision, mais qui lui est propre, et il doit trouver la bonne façon de dire ce qu'il veut dire. Quand il écrit, il sent qu'il y a une façon que sa phrase doit être dite, doit être écrite, et parfois il est satisfait avec ce qu'il a écrit, parfois il ne l'est pas, parfois il n'arrive pas à trouver cette fameuse voie qu'il sent et celle qu'il doit suivre. Et d'après lui aussi, toute la précision n'est pas que dans le contenu, c'est le fond et la forme qui est très important. Et la phrase, la façon dont la phrase est écrite, la façon dont ça commence et que ça se finit, fait partie de la précision de toute la prose de l'écrivain. Et oui, c'est vraiment le fond et la forme qui en font sa propre précision, sa façon d'écrire et son identité d'écrivain.
Alors, certes, oui, le fond et la forme, il y a une exigence de règles dans la poésie et dans le roman, on est bien d'accord, mais ce qui fait le propre du langage humain, c'est sa liberté. C'est-à-dire que le langage humain peut se permettre d'être créatif en étant imprécis, il n'est soumis à rien. Plutôt, le langage humain est son propre but. Oui. Le langage humain, human language is on goal. The imprecision of the human language is substance, is essence. So I know that in poetry you have rules, but there is an imprecision in the human language, no?
Okay, I think it's imprecision of the kind of view of the point of view of theory of or theoretical language, but I believe that that it's precision of other sort. Yeah, Mallarmé said that the writer or the poet has to find le mot juste, yeah, the right word, and it's the proper precision of literature. Yeah, because on the one, it's on the one place. In the sentence or in the text, it's as if you can use only one word, and if you find this word, you wrote what you wanted, yeah. Of course, we can speak about unprecision of language, but in the sense that the meaning is of words is broader of connotation of relations to other things. When I say, for instance, tree or forest, there are many associations which are not explicit, but I hear in those words something from all my experiences in forests and with trees and so on, and of course everybody feels something different. So in this sense, is language of literature impresses because the meanings is not general for everybody, but as I said, precision is here in other sense, in the sense of that Mallarmé's le mot juste.
Donc, il revient sur le fait pour écrire votre poème, faut vous trouviez le bon mot, celui qui va être. Qui va être à sa bonne place dans la phrase. Une fois que vous l'avez trouvé, vous sentez bien. Mais ensuite, il revient sur le fait que pour le sens des mots, effectivement, il y a différentes connotations. Quand vous dites un mot, il va y avoir différentes relations à ce mot. Et notamment, il parle de la forêt et qu'il y a différentes associations. Et qu'en fonction de vos expériences, bah, vous allez voir les arbres ou autres. Mais qu'effectivement, dans ce sens-là, le langage va être imprécis parce qu'il n'y a pas un sens propre pour chaque mot, en fonction de votre expérience, de votre savoir et de ce que vous avez vécu, vous n'allez pas, le mot pour avoir différentes significations.
Mais par exemple, si je dis où est la photocopieuse et qu'on me répond elle est en panne, c'est pas la bonne réponse, mais ça me convient. C'est justement cette imprécision du langage qui est créateur. Par exemple, autre chose, ce que je veux dire dans la relation entre ordre et désordre, dans votre livre, ce n'est pas un pur désordre, c'est un chaos, mais un chaos organisé. Et par exemple, il y a un bestiaire dont l'ouvrage, c'est une accumulation de scènes étranges au fil de la découverte du Prague parallèle, on va dire. Et par exemple, bien que ce soit une fantaisie souvent drôle, parfois tragique, ce n'est pas n'importe quoi. Et par exemple, moi, j'aimerais savoir pourquoi et comment les constantes apparaissent dans l'autre ville. Pourquoi, par exemple, les animaux sont toujours un tigre et une pieuvre? Pourquoi, alors que c'est un livre sur le désordre et le chaos, avoir poser des éléments d'ordre, des éléments de structure?
Yes, in fact, the relation between order and disorder is maybe one of main topics of my book, or maybe the main topic. I think that order and disorder are not opposite, yeah, because the right. The real order is born of disorder. Now, there is also in physics a science about special types of order which are born of disorder. Maybe you know books of Prigozhin, who writes about that topic in physics. My book was born of this experience of order boning, of disorder, and containing in itself the traits of disorder. For instance, when the disorder is in the beginning of the writing of book, because when I begin to write book, so there is only a chaos in my brain, and I have no idea, and I don't know what the content will be. And from this disorder of chaos of beginning, gradually some structure, some order is born. And for me, it's the most it's the best way of how the order can be born, because when the order is born from other order, from ideas, so it is imperfect and cold and dead. And I think that the real order is the order who gradually is born from the original chaos.
Donc la relation entre l'ordre et le désordre est le principal topic problématique de son livre. Et il pense que ce ne sont pas des concepts opposés, l'ordre et le désordre, parce qu'on sait bien que l'ordre est issu du chaos. Et dans plusieurs théories physiques, vous avez différents types d'ordre qui naissent de différents chaos. Et si on parle d'une expérience personnelle, quand il commence à écrire un livre, c'est le chaos dans sa tête. Il ne sait pas ce qui va se passer, quel va être le contenu de son livre, l'idée. Mais au fur et à mesure du temps, une structure se forme dans sa tête et on a un résultat. Et que la meilleure façon d'obtenir l'ordre, c'est avec que ça se construise petit à petit depuis le désordre, contrairement à l'ordre qui se ferait trop parfait en étant issu de choses déjà ordonnées.
De la même façon, sous l'apparence désordonné, on trouve des thèmes et des variations pratiquement comme en musique, et je voulais savoir s'il y avait une importance musicale dans son travail de création. Est-ce qu'il y a par exemple dans L'autre ville une approche musicale en thème et variation? You have a kind of musical writing in this book. It's intentional, or yeah?
As I said, the sentence itself is what urges me to write what I'm writing. So I would sometimes I say that the work writes itself, yeah, by means of mine hand. And so there are many things in my book which I don't know exactly what they are, how they are, yeah, but they are so. And so one of these things is my style of writing. Yeah, it has probably it's probably close to music. Yeah, but to be honest, I don't know why it's not my aim, because I only write I only listen to something in my mind and in my body, and I write it. The style is something which is rooted deep in not only in mind, but also in body, in gestures and so on. So about this. People ask me about two questions: whether I take an inspiration from my dreams, and whether I like music because of my style of writing. And I have to answer in both cases that in the first case that dreams mean very little for me, because to be honest, I don't remember my dreams and they are not interesting. So it's not the source of my writing. And the second question, I must confess that I'm not a fan of music. I don't hear music too much. I like more to read about music than to hear it. I like that famous description of music, for instance, in Marcel Proust, and in some of my books are also relatively long descriptions of some fictive musical pieces. Yeah, but I listen to music very rarely.
Donc, il disait avant sur les phrases et comment elles avaient un début, une fin, une structure. Et ce qui se passe, c'est que finalement, il considère et il dit que quand il écrit, le travail se fait de lui-même et que lui, sa main est juste le vecteur des phrases. Et que il sait pas, parfois, il y a dans ce bouquin des choses qui sont là et il sait pas forcément pourquoi elles sont là, mais c'est juste elles sont là. Et que c'est sa façon d'écrire. Que ça vient de lui et que ça s'écrit et qu'il n'y pense pas trop. Et on lui a déjà fait la réflexion que son style était musical. Et c'est comme ça, mais c'est pour autant, c'est comme ça que ça sort de lui. C'est pas forcément volontaire. Et il a souvent deux questions qui sont, est-ce qu'il est inspiré par ses rêves ou est-ce que la musique l'inspire à cause de son style? C'est des questions qu'on lui pose. Et ce qu'il répond, c'est que pour les rêves, ben non, il s'en inspire pas parce qu'au final, il s'en rappelle pas de ses rêves et il les trouve pas forcément intéressants, donc ils ne sont pas source d'inspiration pour lui. Et d'autre part, pour ce qu'il considère, pour ce qui est de la musique, il n'est pas forcément un grand fan de musique, il n'en écoute pas tant que ça. Il va préférer lire à propos de la musique, les descriptions qui sont liées à la musique, il va prendre plus de plaisir à lire qu'à écouter la musique. Et il aime aussi lire les descriptions de temps musical dans Marcel Proust, où lui-même, dans ses livres, il va y avoir des scènes qui décrivent des temps musicaux, mais ce n'est pas pour autant que lui, il va écouter de la musique.
Enfin, dernière question. Le personnage du roman, votre héros, qui n'en est pas un, est un lecteur. Et il est très passif pendant le récit. Il subit beaucoup ce qui arrive. Donc, c'est un lecteur, il est passif. Et pourtant, puisque c'est le narrateur, il devient lui-même d'une certaine manière auteur et actif à la fin. Et donc ma question était de savoir, vous, en tant que romancier, est-ce que vous considérez que votre lecteur est totalement passif, il subit, ou est-ce qu'il participe d'une certaine manière à la création de votre roman ? Est-ce que le lecteur n'est pas nécessaire, d'une certaine façon, à finaliser votre roman? As your character.
They are under what you're saying, they can't act, or do they participate in your book somehow? But people read your work. I mean, as to Kelly Passive as hero, do they participate somehow in your book?
The presence of my readers.
Well, in your book, the character is quite passive. But
I think that many books, or each book, has not only one interpretation of, not only one meaning, and so this my book has many. There are possible. It's possible many ways of interpretation, and I don't say that this interpretation is good and this interpretation is bad. Sometimes critics say the meaning of the books is this and this, and I can say, okay, it may be, but there are also other interpretations, and there are also good. I don't say that every interpretation is good. Yeah, some interpretations are better, some interpretations are worse, but there are many. And so I think to find a good interpretation is it's a real work, so the reader has to be active and to try find the best interpretation. So the reading is not only passive receiving of something.
Donc quand vous lisez un livre, il y a différentes interprétations possibles. Elles vont être ni bonnes ni mauvaises. Parfois les critiques donnent une interprétation de ces livres et il ne dira même pas qu'elles sont bonnes ou qu'elles sont mauvaises. Chacun a sa propre interprétation. Il y en a des meilleures et des plus mauvaises. Mais il considère qu'en tant que lecteur, vous devez être actif et trouver votre propre interprétation du livre plutôt que de seulement subir et d'être passif dans votre lecture.
Sometimes I read some interpretation and I must say to myself, yes, I didn't mean it in this way, but I can't say that that it is not good and the right interpretation, yeah? That the reader discovers something which I didn't know myself, yeah, and it's not the unique case. Several times I encounter some interpretations who was of my work, which was sort of revelation for myself.
Donc parfois il trouve des interprétations de ses écrits qui n'étaient pas intentionnelles. Et il est surpris lui-même et il découvre, ça lui révèle une façon de ce qu'il a fait qu'il n'avait pas souhaité, mais que c'est toujours intéressant pour lui.
Bien, ben le temps passe hélas très vite. Y a-t-il une question dans le public ? Ben, en tout cas, je vous invite vraiment à lire ce très beau livre qui est L'autre ville de Michel Hageval. On aurait pu aussi parler de L'autre île, précédemment édité chez nous, dont la problématique est complémentaire. Et c'est vraiment un très beau roman, une évasion. Si les gens ici dans le public aiment par exemple Borges, vous serez comblés avec L'autre ville de Michel Hageval, que je remercie beaucoup. Et merci d'être venu.